Arrache, tu vois ce que je vois?
Ouais, je le vois. C'est la moto de Canada dans Akira. C'est un skin original placé sur une moto de base.
Non, pas la moto. Oublie la moto.
Et bienvenue dans La Moto de qui déjà, le podcast qui s'envoie les bouquins d'Ernest Cline en votre compagnie et qui tente de répondre à cette question qui nous taraude. Mais à qui qu'elle est la chauve-souris? C'est ça, hein, je me suis pas trompé. Nous parlons en effet du dernier opus, je sais jamais comment ça se prononce, d'Ernest Cline qui se nomme Bridge to Bat City, ou en français Bat City, un livre pour enfants qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille, Opal, et de ses Pinko, les chauves-souris. Et pour en parler, j'ai avec moi mes deux chroniqueurs. Je vais aller dans le sens inverse pour une fois avec Brice en premier. Bonjour Brice.
Bonjour.
Et Camille, bien entendu. Bonjour Camille.
Salut.
Brice, avant que nous nous lancions dans le vif du sujet, il me semble que tu voulais revenir un petit peu sur des éléments de notre précédent épisode. Donc je t'en prie, nous t'écoutons.
Ouais, c'est le moment où je fais un peu ma petite vidéo YouTube où je fais mes explications, où j'ai des excuses à donner. Non, c'est surtout, je suis passé faire un tour sur le Discord après l'enregistrement d'il y a 2 semaines.
Ouais.
Et je tiens à remercier Shenron, donc du Discord, qui m'informe le 18 mars qu'elle a regret de m'apprendre qu'il y a une grosse incohérence dans la chronologie établie par Cline, finalement. Incohérence que j'ai cherché et que je pensais ne pas avoir trouvé.
Mm-hmm.
On avait juste finalement trouvé une date qui était d'ailleurs janvier 1984. Et du coup, on m'informe que les Muppet Babies ont été diffusés pour la première fois en septembre 1984. Donc, ça m'emmerde. J'avais raison, j'aurais dû fouiller plus loin.
Tu aurais dû aller plus loin. Donc, petite incohérence temporelle. Eh bien, ce ne sera probablement pas la dernière, je
pense. Il n'y a pas que ça.
Oh.
Alors déjà, Shenron, il n'y a aucun regret à m'apprendre ça, je suis trop content. Pour moi, c'est vraiment, en fait, c'est juste une lueur d'espoir, parce que je sais que je ne suis pas seul dans ce combat. J'ai abandonné mes recherches un peu trop vite, parce que j'ai trouvé une date et je me suis dit, oh, ok. C'est aussi parce que je découvrais ces chapitres-là le dimanche matin, on enregistrait le dimanche soir. Voilà, 100% de ma faute. Pour me faire pardonner, je me permets en fait d'ajouter une autre pièce à ça. Et je vous informe que la première diffusion américaine de Robotech, elle date de mars 1985. Nous sommes en janvier 1984. Voilà.
D'accord, donc des petits anachronismes. Je pense que avec Ernest, de toute façon, on peut s'attendre à ce qu'il ne fasse pas forcément dans le détail et que il s'en fout un peu au final. Il est pas là pour ça, lui. Il est pour raconter une histoire de chauve-souris et pour mettre des références dedans. Est-ce que les références ont besoin d'être cohérentes? Non.
Ça m'embête du côté d'une personne qui a la page Wikipédia facile. Tu vois, ça serait n'importe quel bouquin pour enfants et tout ça, je m'en fiche. Mais là, il a vraiment décidé. Ok, c'est les années 80. Et pour lui, les années 80, c'est les années 80. Il n'y a rien, il n'y a pas d'autre repère temporel. Et du coup, tout peut se mélanger. Et j'en ai un autre gros pour tout à l'heure dans un autre chapitre.
Ouais. Moi, j'ai aussi remarqué quelque chose dont on parlera un peu plus tard. C'est qu'il revient à ces vieux démons qui sont... Il va name drop quelque chose, mais pas du tout t'expliquer ce que c'est, à quoi ça ressemble. C'est à toi de connaître, à faire tes recherches. Et lui, il a autre chose à foutre. Et ça, on le verra un peu plus tard, notamment avec des noms de lieux. Mais... nous n'en sommes pas encore là, nous sommes au chapitre 11, ce chapitre 11 qui voit donc nos deux principaux protagonistes, Opal et l'oncle Roscoe, être sur la route toute la sainte journée pour aller à Austin, au Texas, et ils sont sur la route de nouveau, ils sont on the road again, comme dirait Willie Nelson.
On the road again, just can't wait to get on the road again.
Voilà, c'était le premier Nilo Drop, puisque Ernest, il fait pas dans la subtilité, hein. Ils sont sur la route de nouveau, c'est texto ce qui est écrit dans le bouquin, donc il va mettre On the Road Again de Willie Nelson. On n'a pas que ça à foutre. S'il avait eu connaissance de la chanson française On the Road Again de...
On the road again, again. On the road again, again.
Je suis vieux, je n'ai plus de mémoire, attendez, je vais retrouver, Bernard Lavillier, voilà, c'est le nom qui m'échappait, Bernard Lavilliers, une chanson qui s'appelle On the Road Again. Donc, si Ernest Fly avait été français.
J'aurais pas pu t'aider sur le sujet.
Vous connaissez pas Bernard Lavilliers?
Bah non.
Mais vous êtes trop jeune. C'est scandaleux. Eh ben, j'écrirai un livre et il y aura une référence à Bernard Lavilliers dedans et vous serez obligé de Wikipédia. Voilà. Tout ça pour dire que voilà, Klein, il est pas là pour faire dans le subtil. Comme dit le mème, je connais des auteurs qui utilisent le sous-texte et c'est des couards, des pleutres. Eh ben, Ernest, il est pas là pour ça. Il nous explique Opal et son oncle Roscoe font le trajet entre Comfort, la ville de Comfort, et Austin, et que la route est longue, que Opal elle s'ennuie, que Opal elle arrête pas de demander c'est quand qu'on arrive. J'ai fait une petite recherche parce que j'avais que ça à foutre. Ça prend 1h45 grand max, voire 90 minutes de faire le trajet entre Comfort et Austin. Elle est un petit peu impatiente, Opal, quand même. Hein. Je peux comprendre qu'elle soit jeune, mais faut pas pousser non plus, quoi. 1h30, bon. Les chauves-souris, nous apprend, sont effrayés par la ville d'Austin parce que c'est plein d'humains et les humains, ça craint.
Oui, j'ai relevé 2-3 trucs, dont un que tu avais étrangement déjà dit dans l'épisode précédent, c'est que Roscoe, effectivement, déjà surendetté, il a tout donné avant de partir. Il a gardé juste ses ordinateurs et probablement son pyjama Star Wars et son chapeau. Rappelons-le qu'on doit imaginer, on doit en permanence l'imaginer avec ces accessoires-là. Hein. C'est son équipement pour cette aventure. D'autres choses, tu parles des chauves-souris qui sont pas chaudes en fait, qui sont un peu incertaines et tout ça. Il y a quelque chose et je pense que ça peut être un thème pour l'ensemble de cet épisode. Et il faut le souligner parce que Ernest le dit très clairement, c'est écrit, les chauves-souris ne savent pas lire. Voilà, on garde ça pour plus tard, c'est juste voilà, les chauves-souris ne savent pas lire.
Ouais, j'ai pas mal de choses de ce Takabi aussi qui m'ont bien marqué sur comment ça fonctionne en fait, les chauves-souris dans cet univers.
Elles savent pas lire, mais en revanche, apparemment, elles savent ce qu'est un état, elles savent ce qu'est une capitale. Elles savent ce que les humains font en nombre dans une capitale, et du coup, c'est ce qui les fait flipper.
Voilà, et je vais même sauter un petit peu quelques paragraphes que j'ai notés, mais en outre, les chauves-souris comprennent le principe d'argent, de coût de la vie, d'emploi et d'être fauchés, parce qu'ils ont une conversation avec les chauves-souris, ils expliquent que, bon, ça va peut-être pas vous parler, mais il faut qu'on trouve un job, parce qu'on n'a pas d'argent, que le coût de la vie est cher, et qu'on est fauchés, c'est... incroyable. Et globalement, les chauves-souris, ok, elles comprennent. C'est tout un tas de concepts, ça leur pose pas de soucis. Elles sont OP, il y a pas de problème.
Non, mais en fait, moi, ce qui m'a fait un peu câbler, c'est que il leur dit un truc genre, oui, c'est une ville dangereuse où vous êtes en danger permanent, vous risquez votre vie, mais il y a de la musique live. Et j'ai eu des petits PTSD, ça m'a rappelé des moments de festival où on me dit, non, mais le groupe est super, faut juste ignorer les nazis dans la fosse et les croix gammées sur le merch. Mais tu vas voir, t'es en sécurité, tout va bien se passer, on va passer un bon moment.
Et c'est des gros nounours. J'ai noté aussi que les chauves-souris, ils sont censés avoir des conversations télépathiques avec elles, mais t'as Opal qui est quand même en train de hurler à la fenêtre de la voiture pour qu'elle les entende. Roscoe qui précise que... Oui, mais Roscoe qui dit que c'est quand même commode, qu'Austin est une ville pas chère du tout et il est très facile de trouver un job. Enfin, je veux dire, c'est la capitale de l'État, donc c'est certainement une des villes les plus chères de tout l'État du Texas. Et il est très facile d'y trouver un job, c'est quand même commode. J'ai fait une petite recherche, on a dit qu'on était en 84. Le chômage à l'époque de Reagan était le deuxième pire de toute l'histoire des États-Unis. Bon, c'est pas grave, hein. Fallait bien, mais après, on est dans un livre pour enfants. Les enfants, est-ce qu'ils connaissent Reagan? Non. Mais est-ce qu'ils connaissent Willie Nelson? Non plus. Donc, prends ça, Ernest. Allez, vas-y, mange ta cohérence. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté que, à son crédit, la gentrification d'Austin était assez récente. Donc, il n'est pas impossible que dans les années 80, Austin était peut-être relativement abordable. Mais je pense que par rapport au trou du cul du monde où ils habitaient, donc la ville de Comfort, ça doit quand même être largement plus cher. Après, oui, quand t'es un fan de TRS 80, il y a peut-être plus de boulot à trouver que quand t'es incapable de faire fonctionner une ferme.
Moi, il y a un truc que j'ai noté, c'est qu'il leur en faut pas non plus des masses pour les convaincre, ces petites chauves-souris, parce que Roscoe sort sa vision d'Austin, qui est une sorte d'enclave de joie et de tolérance dans un monde saturé de violence, de béton, bref, un genre d'utopie en sursis. Donc ça suffit à les convaincre et donc elles font à l'unisson tout ensemble un bruit de froissement d'ailes qui perturbe profondément Roscoe et il se sent soulagé lorsque ça s'arrête. C'est bien expliqué dans le bouquin que ça le perturbe profondément. Et je me suis dit, c'est impératif que Roscoe puisse avoir accès à un diagnostic de neuroatypie. On lui souhaite sincèrement qu'il puisse enfin poser un cadre sur ses mots, cesser de se croire uniquement inadapté. Et juste après, je fais une ellipse, ils entrent dans Austin, il y a une demi-douzaine de musiques différentes qui s'échappent des bars et des fenêtres, donc théoriquement de quoi faire vriller quelqu'un qui ne supporte déjà pas le bruit de d'ailes qui se froissent.
De froissement d'ailes.
Mais Roscoe est ravi et il commence à énumérer l'intégralité des bars. Donc comme soit la personne sur le spectre qu'il est très probablement, ou alors un mec sobre depuis peu au bord de la rechute. Donc c'est difficile de trancher, j'ai pas trop su me positionner sur le sujet. Du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ce truc-là?
Alors moi, c'est ma lecture depuis le début, en fait. Enfin, tout le monde est sur le spectre. Hein. Enfin, c'est... Klein écrit des personnes sur le spectre, ce qui me dérange énormément, mais il le fait, malgré lui, peut-être. Et effectivement, oui, après, il y a ce passage assez gênant où il y a eu un Wikipédia d'Austin, un Wikipédia des bars et des salles de concert d'Austin. Et là, il nous liste, je ne sais pas, une dizaine de lieux.
Oui.
Dont un, alors, parce que maintenant vous me connaissez, le Saxon Pub, qui a ouvert en 1990.
Écoute, alors j'aime beaucoup que tu aies fait cet effort, parce que je ne l'ai pas fait, mais j'ai quand même noté quelque chose. J'ai noté qu'effectivement, il le fait une liste de noms de lieux avec zéro description, Google Earth et démerde-toi. Qu'en gros, on demande pas une logorée à la Stendhal, on lui demande pas d'écrire trois chapitres sur les collines vallonnées autour de Besançon, mais au moins une ligne de description, histoire de donner un peu de corps à son univers, tu vois, de t'expliquer pourquoi tel bar est important, à quoi il ressemble, qu'on arrive à se l'imaginer. Mais non, il te name drop le nom du lieu, et c'est tout. Rien à foutre. Il est pas là pour ça, Ernest. Il est là pour balancer son nom. Si ça t'intéresse, tire à faire tes recherches. Donc, je suis très content que tu aies fait la recherche. Mais c'est ça qui est incroyable. Il a l'air de s'imaginer que, de toute façon, vu qu'il décrit Austin comme la capitale mondiale de la musique live, tout le monde connaît, de toute façon. Et puis, c'est rempli des meilleurs musiciens qui font la meilleure musique et donc des meilleurs habitants. Enfin, c'est tout est le meilleur au monde dans ces bouquins. Et j'en reparlerai un peu plus tard. Et c'est vrai que tu parles des froissements d'ailes de chauves-souris. En fait, ce qui est rigolo, c'est que quand Roscoe explique qu'Austin est une ville de contre-culture, les chauves-souris, elles froissent des ailes parce qu'en fait, elles applaudissent. C'est que tout le monde, toute l'audience, à savoir le million de chauves-souris plus Opal, est en train d'applaudir quand il dit « la contre-culture à Austin ». Moi, je trouve que ça m'a rappelé un peu Ready Player One, Ready Player 2, où ça s'esbaudissait sur des connaissances en jeux vidéo de merde, quoi. Enfin, genre, il se faisait des championnats de trivia sur des jeux vidéo obscurs. Bah là, c'est à peu près la même chose sur la connaissance de la musique live que Roscoe peut avoir. C'est minable. Enfin, c'est vraiment minable. En parlant de trucs minables, j'ai noté une omniprésence du terme rumble et rumbler. Qui reviendra par la suite, mais il est tellement fier de son mot qu'il le place à chaque fois qu'il peut, tu vois. Il va pas dire « ils ont conduit » ou « ils se sont déplacés », c'est « non, rumble, 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 rumble » à répétition, c'est insupportable. Je me souviens plus, Camille, tu nous avais dit comment ça avait été traduit en VF ?
La baladeuse.
Et donc, du coup, quand ils utilisent le verbe, est-ce qu'ils disent « ils se baladèrent de tel lieu à tel lieu » ou est-ce que le traducteur français t'a épargné ça ?
Alors, ils utilisent toujours... La baladeuse, donc c'est ils utilisèrent la baladeuse, des trucs comme ça, il me semble. Il faut que je revérifie. Je t'avoue que je pense que j'ai dissocié au bout d'un moment.
D'accord, parce qu'en VO, tu vois, t'as des phrases du genre as they rambled into town ou alors ready to ramble et ils l'utilisent mais tout le putain de temps. C'est absolument horrible. Pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur Ernest qui décrit rien. Il y a une ligne notamment qui moi m'a fait bondir, c'est quand elle te dit there's history everywhere you look in this town, donc il y a une part d'histoire quel que soit l'endroit où tu regardes dans cette ville, mais faut pas trop compter sur Ernest pour te la raconter l'histoire, lui là il a vraiment autre chose à foutre, tu vois, c'est à chaque fois des petites anecdotes lâchées comme ça mais sans jamais t'expliquer en quoi ça consiste, pourquoi c'est important, c'est du name drop. Et on avait l'habitude des name drops de titres de films, de jeux vidéo et tout, bah là, ça va être du name drop de nom de lieu d'Austin, ce qui est encore pire. Enfin, je veux dire, si t'habites pas Austin, ça te parle pas. Et même si tu habites Austin mais que t'es un enfant, ça te parle pas forcément. C'est des salles de concert et des bars. Enfin, voilà, bon, bref. Et le pire, c'est que ce chapitre 11 n'était qu'un amuse-bouche.
Qu'un amuse-bouche. Et c'est très drôle parce que là, on termine sur toi qui dit « Ok, il liste des choses, il les décrit pas, il y a de l'histoire à faire et tout ça ». Bah du coup, je lance le chapitre 12, hein, ça y est, coucou.
Ah vas-y, tu peux y aller, le chapitre 12, allez, c'est le, on peut le dire, le vif du sujet.
Voilà, le chapitre 12 commence par un encadré d'une page. En tout cas, sur ma liseuse, il fait une page entière pour nous expliquer, en gros, ce qu'est un gros lampadaire.
Voilà, ce qu'est une Moon Tower.
Mais il y avait, avec des descriptions historiques, des noms de lieux, les personnes qui l'ont fabriqué, qui l'ont vendu, comment il est fait. Vraiment, le truc, juste pour dire, les chauves-souris sont posées là.
Moi, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, c'est de très loin le sujet le moins engageant jamais abordé dans une fiction jeunesse. Y a pas, ce n'est pas possible de faire pire.
Pour expliquer un petit peu, donc ça, c'est effectivement une sorte de gigantesque lampadaire. Hein. Sur mon édition physique, ça prend 2/3 d'une page, mais sur la page de gauche, il y a une illustration qui te montre à quoi ressemble le lampadaire.
Ah.
Et c'est bien un encadré donc que l'on imagine tiré du journal du scratchbook de d'Opal. Mais ça démontre bien à quel point il a abandonné toute velléité d'écrire, en fait, Ernest, parce que il aurait pu complètement l'intégrer à son récit, ça, avec Roscoe qui explique à Opal ce que c'est. Mais non, il a décidé d'en faire un article Wikipédia sur une page à part dans un encadré, parce qu'il est pas là pour la narration, en fait. Et oui, c'est effectivement complètement inintéressant. Enfin, je veux dire, ok, les Moon Towers, il y en avait plein aux États-Unis, maintenant il y en a plus. Bon, ça aurait pu tenir en 3 lignes, mais non, il te fait 2/3 de page sur ce qu'est une Moon Tower, donc une espèce de gigantesque lampadaire.
Et je suis un peu deg parce que j'aurais adoré qu'il fasse ça, le même encadré, sur chacune des salles de concert du chapitre précédent. Et même, enfin, en tant que gosse, j'aurais adoré aussi, tu vois, c'est, on t'explique, ok, il y a ça, et il y a ça, voilà, il y a une statue en forme de ça devant, on l'appelle comme ça, ça aurait été trop bien. Non, c'est la lampe qui a le spotlight.
Mais je vais pas dire que j'aime pas le fait qu'il ait pris le temps d'expliquer ce que c'est, mais c'est vraiment bizarre d'en faire un encadré quand ça pourrait être intégré super facilement au récit, quoi. C'est vraiment une preuve de démission, quelque part, en fait. Son boulot, c'est de nous raconter une histoire, pas de nous recopier-coller des articles Wikipédia, surtout quand c'est aussi évident, quoi. Notre colonie de chauves-souris trouve une Big Old Abandoned Barn, ce qui nous change de la Big Old Beautiful Cave, donc on n'est pas encore sorti du Big Old, et il y en aura encore plus tard, et c'est absolument horrible. Et du coup, on apprend que nos amis de la clique de la corde à linge se séparent par groupe de 2, sachant qu'ils sont 12, ça fait 6 groupes de 2, et qu'ils vont donc chercher un nouvel abri, chacun dans Austin.
Attends, il y a un petit truc juste avant, je me permets de te couper. Il y a un POV chauve-souris de la colonie qui n'est pas la corde à linge.
Ah.
Et il y a une scène où les chauves-souris qui sont dans cette grange,
ouais,
planifient le futur logement et discutent entre elles de leur précarité et de leur instinct de survie, quoi, parce qu'il y a énormément de chauves-souris comment est-ce qu'on dit ? On dit enceinte ? Est-ce qu'on dit qu'une chauve-souris est enceinte ?
On va le dire ce soir.
Qu'elles sont en gestation, quoi.
Ouais, voilà. Ouais.
Donc du coup, il y a des vrais questionnements à ce niveau-là, et ça met en phase, en fait, sur les difficultés que traverse actuellement cette colonie. Et donc tous les espoirs de relogement reposent sur la clique de la corde à linge, qui ensuite se divise donc en binômes.
Voilà, sur les 12 autres.
Et là, on a une nouveauté dans cet instant où, et c'est effectivement Trinity et Colorado, donc deux membres du gang de la corde à linge qui rentrent en fait pour parler aux autres. Et on a une nouveauté, c'est qu'on a vraiment des lignes de dialogue. Là, il y a clairement les chauves-souris parlent entre elles.
Ah, je pensais que tu voulais développer là-dessus.
Ah non, c'est juste que bah, maintenant, oui, on a clairement des conversations entre chauves-souris avec qui parlent vraiment comme des humains et tout ça. Donc on est vraiment dans un full POV chauves-souris, et peut-être effectivement que je traîne des pieds pour nous éviter ce qui va se passer 5 ou 6 fois de suite après, quoi.
Non, mais vas-y, je me lance. Donc on apprend que parmi ces chauves-souris, on en a 2. Alors c'est les 2 dont je crois que j'ai pas le nom, c'est Rainy and Red qui sont
oui,
à ce premier concert. Rainy and Red se rendent à ce concert, et le grand panneau à l'entrée de la salle de concert indique que c'est ZZ Top, donc les chauves-souris maintenant savent lire. Elles ont appris entre-temps depuis le chapitre précédent. Et donc on découvre qu'elles sont à ce concert de ZZ Top et elles trouvent ça formidable. Elles comprennent les paroles de Sharp Dressman en l'absence d'Opal. C'est globalement ce qu'on te dit, hein. C'est que maintenant les chauves-souris comprennent les humains normaux. Elles ont plus besoin d'Opal, manifestement. donné qu'elles sont envoûtées par la musique, elles libèrent de leur mojo, ce qui fait de ce concert de ZZ Top un des plus grands shows de l'histoire du rock'n'roll.
Ouais.
Et c'est là le moment où j'ai noté quelque chose que j'aurais déjà dû noter avant avec tous les superlatifs sur la ville d'Austin. Vous connaissez la citation qui est attribuée à Albert Einstein, que tout est relatif, je sais même pas si elle est vraiment de lui, mais vous la connaissez, tout est relatif.
Ouais, bien sûr.
Eh ben, avec Ernest Cline, tout est superlatif. Tout est toujours le meilleur, tout est toujours le plus grand, le plus célèbre, le plus incroyable. Et donc là, c'était le plus grand show de l'histoire du rock'n'roll. Et le pire, c'est qu'il va nous refaire le coup quasiment à chaque fois, puisque oui, on a un petit peu dévoilé le poteau rose. Nos chauves-souris sont en binôme, par groupe de 6. Les 6 groupes de chauves-souris vont toutes se trouver à un concert, toutes d'un artiste différent, vont toutes se trouver envoûtées par la musique, vont toutes libérer leur mojo, vont toutes ne pas pouvoir se retenir. Et alors ça, je l'ai noté parce qu'il a écrit quasiment la même phrase à chaque fois. « They couldn't help themselves ». Et c'est juste les name drops qui changent, c'est juste les groupes et les lieux qui changent. Mais à 6 reprises, dans ce chapitre, Ernest Cline va écrire la même chose. Donc ça commence avec ZZ Top. Ensuite, c'est Pearl and Sabine qui vont chez Antons, dont on a le nom, pas de description parce que pas que ça à foutre, qui sont à un concert de Fabulous Thunderbirds, qui chantent Tough Enough, où là encore les chauves-souris comprennent les paroles. Là encore, les chauves-souris abandonnent leur mission parce que c'est le best rhythm and blues qu'elles ont jamais entendu. Mais attendez, c'est pas fini parce que Fabulous Thunderbirds, c'était la première partie. Ensuite, il y a B.B. King. When the evening sun goes down, you're gonna find me in Austin. Somewhere hanging around Austin city limits. The nightlife, it ain't no good life, people. But it's my life, yeah. All the people. Ensuite, il y a Muddy Waters. Got my mojo wicked, but it just don't work on me. Got my mojo wicked, but it just don't work on you. Elles font la même chose que les deux précédentes.
Muddy Waters, il est mort en 1983.
Oh, wow. Incroyable. Ah mais Brice, mais tu fais un travail.
Je suis
mais...
en train de m'étouffer, c'est extraordinaire ce que t'as fait Brice. Je te remercie tellement, j'ai pas eu le courage en fait de faire ces recherches là. Et donc ensuite on a Trinity et Colorado qui évidemment eux vont à un concert de country music qui est la plus belle qu'elles aient jamais entendue. Et là, t'as un aparté sur le lieu qui s'appelle le, qui est un honky-tonk. C'est même pas le nom du lieu, c'est un honky-tonk. Et là, t'as un aparté sur comment Ernest trouve que ça sonne comme Donkey Kong. Et tu sais que c'est Ernest Cline, 8 ans, qui entend pour la première fois le mot honky-tonk et qui dit, ça sonne comme Donkey Kong. Et qui, 40 ans plus tard, s'en souvient et te le ressort dans son bouquin de merde. J'ai trouvé ça extraordinaire.
Je me suis dit quand même, pendant que le reste de la colonie est en train d'agoniser, tout le monde fait la giga teuf à Austin. C'est censé être thérapeutique, parce que Ernest nous explique que la clique de la corde à linge avait besoin de souffler, qu'elles étaient traumatisées par la destruction de la grotte, mais les autres, bah les autres, elles clamsent.
Les autres, elles clamsent, ou elles meurent en mettant bas, tu vois, c'est encore pire. Donc évidemment au Donkey Kong, bah il y a Willie Nelson, bien entendu quoi, parce que il fallait bien qu'il soit là. Well, there's nothing quite like Texas on a Saturday night. Nothing can compare to it no matter how you try. Donc moi sur mes notes j'ai noté en lettres majuscules 3e fois qu'il raconte la même putain de chose.
On est pas sur un petit extrait de quelques lignes quoi, c'est pas un effet de style de répétition. On est sur 2 pages entières pour expliquer la même chose avec le même déroulement à chaque fois, à savoir les chauves-souris arrivent dans un endroit, écoutent un morceau de musique, se prennent au jeu, dansent, libèrent un mojo. Et font de ce concert un moment d'anthologie, quoi. Et c'est ça, 6 fois d'affilée sur 6 pages.
Sur 12 pages. Sur 12 pages.
Sur 12 pages, pardon.
Et les petits bonus, parfois, par exemple, Rainy et Red, non seulement font le plus grand concert de l'histoire, mais suivent ensuite la voiture des ZZ Top et participent à une grosse soirée avec le groupe et d'autres personnes. Et alors, je ne sais plus quel couple de chauves-souris...
C'est vrai que Rainy et Red vont à un after avec ZZ Top. J'avais noté voilà. Ça m'avait fait beaucoup rire. Mais c'était avant de lire la suite, en fait.
Je sais plus quel couple de chauves-souris, mais je crois que c'est Trinity et Colorado, je suis pas certain, qui, à un moment, commence un peu les recherches, quand même, bah, d'un nouveau logis, et du coup, tombe vraiment sur un panneau qui dit « Non, cette maison, elle est délabrée, on va la détruire. »
Ah mais oui, mais oui.
Et du coup, elles abandonnent.
C'est vrai, et elles tombent sur une sorte d'usine désaffectée, en fait.
Ah mais oui.
Et y a un panneau avec marqué « Destruction demain » ou un truc comme ça, et donc, du coup, les chauves-souris font « Ah bah non, regarde, c'est écrit sur le panneau. » Vu qu'on sait lire depuis deux chapitres, ce serait dommage quand même de s'installer ici. Donc évidemment, on l'a dit, il écrit six fois la même chose, donc les chauves-souris César et Jacinto, qui évidemment ont des noms à consonance hispanique, vont à un concert de Selena, où Selena chante Como la Flor, et c'est la plus belle chanson Tejano qu'elles aient jamais entendue. Selena, c'est une artiste dont j'ai entendu parler la semaine dernière. Alors, à quoi ça joue, à quoi ça tient les coïncidences? Parce qu'elle a été assassinée à 23 ans en 1995. Mais ça veut dire qu'en 1984, elle avait 12 ans, donc elle devait pas faire beaucoup de concerts, Selena, à cet âge-là. Alors, elle avait déjà enregistré un album à cet âge-là, mais je pense pas qu'elle faisait tellement de concerts, franchement. Donc, tout ça pour dire que oui, on en a reparlé dans l'actualité de Selena la semaine dernière, parce que la femme qui l'a assassinée, qui à la base s'est présentée comme une fan hardcore de Selena et a géré son merchandising et en fait l'a arnaquée, elle a pris perpète avec 30 ans incompressibles, et normalement elle avait sa première audition pour faire appel la semaine dernière, mais cette demande a été rejetée, donc elle est repartie en tôle pour au moins 5 ans. C'est pour ça que j'ai entendu parler de Selena la semaine dernière, et donc c'est pour ça que je me suis souvenu que, mais attendez, elle est morte très très jeune. Et c'est plus ou moins sous-entendu dans le livre en disant « Malheureusement, elle nous a quittés trop jeunes. » Mais voilà, je pense que Selena, à 12 ans, ne faisait pas beaucoup de concerts dans des bars où des chauves-souris pouvaient la regarder. On en est à 4, il en reste encore 2. Il y a donc Koenig et Lamar qui, évidemment, tombent sur un concert de rap, parce que, bah, pourquoi pas. C'est Run DMC, c'est leur premier show ever à Austin. Est-ce que tu as fait l'effort, Brice, de chercher la date?
Non, je crois pas. Je crois que là, je commençais déjà à convulser. J'étais pas bien, tu vois. Je vois que, sauf si j'ai perdu l'affiche, je crois que j'ai même pas pris la peine de noter, en fait, ce qui se passait avec les autres chauves-souris.
Moi, j'ai noté que c'est écrit dans le livre que les chauves-souris ne reviennent pas de ce timing. Quelle chance! Bah oui, c'est quand même de la chance que t'aies autant d'artistes super renommés qui jouent tous dans la même ville le même soir. Quoi. Je veux bien qu'Austin soit une ville de musique live, mais faut pas pousser non plus. Quoi. C'est comme si... Enfin, t'as l'impression qu'il a mis tous les noms des célébrités qu'il pouvait. Il aurait mis Prince si ça avait eu un sens. Quoi. Et enfin, on a Lavaca et Bravos qui, de leur côté, vont voir Eric Johnson qui joue Cliffs of Dover. Une fois de plus, c'est la most beautiful music. Là, sur mes notes, j'ai écrit putain de merde en immense. Et c'est comme ça que se termine ce chapitre. Je ne plaisante pas. Ce chapitre, c'est 6 fois la même chose. À chaque fois, écrit de la même manière, avec limite les mêmes phrases copiées-collées. je n'ai jamais lu un truc aussi merdique de ma vie.
Ouais, moi non plus.
Et j'insiste, honnêtement, hein, de toute l'œuvre d'Ernest Cline, c'est le pire truc que j'ai jamais lu, et j'ai lu son poème sur la branlette.
Ouais, mais je me suis fait cette réflexion, je me suis demandé si c'était un chapitre conçu pour tester les limites mentales du lecteur. moi, j'étais vraiment dans un état mais d'apitoiement, j'étais atterrée. J'ai même d'ailleurs été obligée de faire une pause, j'ai envisagé de faire une méditation pleine conscience, alors que je déteste ça, juste pour trouver la force de potentiellement continuer la lecture de ce livre majoritairement composé de matière fécale. mais je me suis sentie provoquée, quoi. Je me suis dit, en fait, là, il est plus en train de raconter une histoire, c'est une baston de regard. Il teste ce dont je suis capable.
C'est limite si à chaque fois qu'il écrivait son chapitre, il disait, allez, on va voir qui c'est qui va tenir. Allez, et celui-là, allez, encore un, allez, encore un. C'était vraiment, vraiment archi compliqué, en fait. Et cette sensation que l'auteur du bouquin se fout de ma gueule, qui augmente au fur et à mesure, je veux dire... Il y a eu un ami commun qui m'a signalé quand on a sorti notre deuxième épisode que bon oui certes le bouquin est merdique mais faut pas oublier que c'est un livre pour enfants et donc il va faire quelques figures de style, il va faire quelques trucs qui sur lesquels on peut peut-être un peu fermer les yeux, mais là quel enfant va kiffer qu'on lui raconte six fois la même chose dans un laps de temps si court, enfin je veux dire c'est pas possible. Je comprends pas. J'ai jamais vu ça, même dans un livre pour enfants, en fait, vraiment.
Moi non plus. et du coup, après deux Xanax et une greffe de plasma jeune, pour pouvoir continuer, je me suis attaquée au chapitre 13.
Eh ben, vas-y, tu as l'air motivé pour commencer, pour enfin nous sortir de chapitre 12. Et le chapitre 13, je dirais que c'est le coup de grâce, en fait.
Ouais, c'est assez épuisant. J'ai pas énormément de choses là-dessus. Concrètement, on passe sur Roscoe et Opal, après avoir vu les chauves-souris écouter tous, à leur tour, un concert différent. Donc, Roscoe emmène Opal dans un bar. Et elle est mineure, donc elle ne peut pas rentrer dans les bars. Donc, il squatte... l'entrée.
Et il squatte la porte de derrière, même.
La porte de derrière, pardon, c'est ça. Et étant donné que la musique est maléfique, c'est l'œuvre du démon, il leur arrive la même chose qu'aux chauves-souris et ils se mettent à danser comme des gros dératés. C'est pas comme s'ils devaient faire preuve de discrétion parce qu'ils n'ont pas le droit d'être là, donc ils dansent. Et le vigile se met à les regarder et se disent « Oh bah dis donc, ils ont la musique dans la peau » et il les laisse rentrer.
C'est ça.
Le mec a fait son job de la pire des manières. On lui dit « Tu laisses rentrer personne », il laisse rentrer littéralement tout le monde. Donc j'ai cru crever.
C'est ça, donc ils sont au Continental Club. Comme tu l'as dit, bah, ils n'ont pas le droit de rentrer parce que Opal est mineur. Ils vont à la porte de derrière, alors que c'est un concert de Joe Ely qui joue Me and Billy the Kid. Well, me and Billy the Kid never got along. I didn't like the way he cocked his hat and he wore his gun all wrong. But we had the same girlfriend and he never forgot it. She had a cute little chihuahua till one day up shot it. He rode the hard country down the New Mexico line. He had a silver pocket watch that he never did wind. He crippled a piano player for playing his favorite song. Yeah, me and Billy the Kid, we never got along. Yeah, me and Billy the Kid, never got along. Joe Ely, dont on apprend soudainement qu'il est l'auteur de certaines des chansons favorites d'Opal. Opal, qui, on le rappelle, il y a deux chapitres, était monomaniaque, connaissait Buddy Holly et rien d'autre. Mais là, subitement, Joe Ely s'est devenu l'auteur de certaines de ses chansons favorites. Alors peut-être que l'a découvert en regardant Austin City Limits avec son tonton Roscoe entre deux bols de Chocapic aux fruits, là. Mais bon, voilà. Et comme tu le dis, ils ont tellement bien dansé que ouais, le vigile s'en émeut et leur laisse regarder le show depuis l'arrière de la scène. Donc c'est même pas qu'il les laisse rentrer dans le bar, ils sont en backstage. Donc vraiment une occasion de rêve et en fait c'est là où je me suis rendu compte au moment où il précise que Opal et Roscoe finalement s'amusent tellement qu'ils en oublient qu'ils devaient aller dormir pour chercher une maison le lendemain, c'est là que je me rends compte que cette espèce de chien de la casse venait d'écrire le même truc mais avec les deux humains une septième fois. Et là, j'étais vraiment, vraiment en colère, en fait.
Il y a un moment, en fait, où il le dit à demi-mot. J'ai noté cette phrase en français. Ça commence par « Il transporta musiciens et spectateurs dans un tout autre univers de sons, d'énergie et de joie qu'il serait impossible à décrire avec des mots, donc je ne vais même pas essayer. Non, il le dit en fait qu'il a la flemme, il le dit qu'il a pas envie de faire le moindre effort, quoi.
C'était ma note juste après en fait, et c'est ça que moi j'ai noté, wesh. C'est exactement comme, vous vous rappelez le combat contre les Prince dans Ready Player 2, où en gros on te dit il y a un grand flash lumineux et puis soudain, bah je sais pas ce qui s'est passé mais on a gagné. C'est exactement la même merde en fait, où il a complètement la flemme de raconter le truc. Et là, c'est du ta gueule, c'est magique de compétition. Et il pense que parce qu'il le dit ouvertement, ça va passer quoi. Comme quand dans Armada, il cite ouvertement The Last Starfighter et qu'il se dit que c'est pas grave de plagier le film parce que je le cite. Mais non quoi. C'est mec, ton boulot c'est d'écrire, ton boulot c'est d'expliquer ces choses là. Donc ouais, le fait qu'il ose écrire. Oh là là, ils étaient dans un état de joie et d'énergie qu'il est impossible à décrire avec des mots, donc je vais même pas essayer. Mais c'est une deuxième insulte, en fait. Il vient nous écrire 7 fois la même chose, et là, pour le coup, il faudrait qu'il écrive quelque chose de différent, mais il a la flemme. C'est surréaliste. C'est vraiment surréaliste. Et putain, mais faut vraiment vouloir pour s'envoyer ça. Et se dire qu'il y a des gens qui lisent ces bouquins-là pour le plaisir... Honnêtement, hein, ça me dépasse un peu.
Mais moi, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais si tu détestes écrire, arrête, en fait. Ça, ça soulagera tout le monde, il n'y a aucun problème, quoi.
C'est exactement
et
ça.
Et juste derrière, du coup, Opal et Roscoe dansent. Ils oublient qu'ils sont fauchés, qu'ils n'ont pas de toit, pas de plan, pas d'avenir. C'est la catastrophe, ils oublient tout, sauf le groove. Et en fait, je me suis fait la réflexion, je me dis, ce livre est en train de me rendre de droite.
Mais moi, il y a le truc que ça m'a convaincu, mais vraiment, et j'en étais déjà convaincu au précédent épisode, mais là, maintenant, je pense que c'est mort, on n'entendra plus jamais parler de l'OVNI, et Mucker No Limestone, c'est terminé, hein. Ils seront plus jamais dans l'histoire, quoi. Et les autres sont partis à Austin. Mucker No Limestone, c'était les méchants du pauvre chapitre et demi dans lequel ils habitaient à la campagne, et maintenant, il n'y a plus rien, quoi. Maintenant, toute la problématique du bouquin... Ça va être de reloger les chauves-souris et de faire accepter les chauves-souris aux habitants d'Austin. Honnêtement, je le vois venir comme ça, quoi. Je ne vois pas d'autre issue possible à ce bouquin. Et est-ce que je trouve ça intéressant ? Non, pas une seconde, mais vraiment.
En parlant des chauves-souris, au début de ce chapitre, ou à la fin, je ne sais plus, je crois que c'est au début, il y a un débrief de la soirée de la part des chauves-souris qui est trop drôle. Parce que... Il y a une ligne de dialogue, elles se disent « Ok, bon, c'est la merde, aucune d'entre nous n'est allée chercher un appart, qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas possible. » Et là, il y en a une qui a une idée et tout le monde est d'accord. Grossièrement, c'est « Ok, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va défier toute notion de biologie, des siècles d'adaptation et d'évolution,
oui.
Et viens, on devient diurne. »
Oui. J'ai trouvé ça incroyable. Viens, on devient diurne, mais demain, parce que là, faut dormir quand même. C'était tellement ouf.
Mais moi, il y a un truc qui m'a rendu ouf, c'est qu'il y a eu une emphase sur le pire chapitre de l'existence juste avant, où ça expliquait que bah, personne n'avait rien branlé, aucune chauve-souris ne s'était donné du mal. Et le truc, c'était... Oui, mais bon, elles sont mélomanes, et dans une ville comme Austin, où il y a la meilleure musique du monde, c'est impossible de résister. Et voilà, et on passe à autre chose. Ça veut dire que tout le chapitre, il n'y a aucune conséquence au fait que personne n'ait rien branlé.
Non, bah, ça les a retardés de 24 heures. Bon, c'est pas grave, les autres sont dans une grange. Oh.
Il y avait des ZZ Top.
Oui, puis en plus, on t'explique même pas pourquoi la grange, finalement, c'est pas une solution, quoi. Pourquoi, finalement, elles sont malheureuses dans leur grange? Est-ce que la grange est trop petite? Est-ce que la grange est trop humide? Est-ce que la grange est trop froide? Pff, Ernest, il a pas que ça à foutre, hein. Non, la grange, ça va pas. Donc, il faut trouver autre chose. Et cette autre chose, c'est Opal qui va le trouver dans ce chapitre 14. C'est un pont.
C'est très drôle parce que je crois que la grange, c'est une chanson des ZZ Top.
C'est vrai. Oui, c'est vrai. La grange est un des morceaux les plus connus des ZZ Top. Après, c'est ce qui est rigolo, c'est que c'est Lagrange en français, le titre du morceau des ZZ Top, et pas oui. Big Old Beautiful Barn ou mes couilles là.
Bien sûr.
donc si Lagrange était trop froide et trop humide, c'est pas grave. Opal vient de trouver l'habitat idéal pour des chauves-souris, un pont, donc en extérieur. Donc il y a pas ces problèmes-là sont résolus. Mais comment est-ce qu'Opal trouve ce truc ? Eh ben, Opal trouve ce truc parce que Oncle Roscoe est candidat à un job pour aider un journal local à faire sa transition numérique. J'ai trouvé ça extraordinaire. On t'explique que Oncle Roscoe, il s'y connaît un ordinateur. Donc il va aller aider le journal local qui remplace ses machines à écrire par des traitements de texte. Et c'est pour ça qu'il est parti interviewer. Alors, il est parti faire son entretien d'embauche. Alors, j'imagine qu'il avait gardé un costard pour l'occasion parce que je pense pas qu'il y soit allé en pyjama Star Wars.
Si. Si, on n'a plus le choix.
Ah si. Si, c'est obligatoire. Moi, c'est hors de question. Je serais intransigeante sur ce truc-là. Il a toujours la couille dans Palpatine.
Il est en pyjama Star Wars avec son chapeau de cow-boy et ses bottes rouges. Il est parti faire son entretien d'embauche. Opal attend dans le Rambler, dont on entend encore parler au moins 3 ou 4 fois dans ce chapitre. Et elle entend une chanson qu'elle a toujours aimée. This Must Be The Place des Talking Heads, une chanson qui sort en novembre 83, donc si on est en 84, elle l'a toujours aimée depuis 6 mois, grand max. voilà, bon, elle voit un Big Old Beautiful Bridge, moi ça m'a donné envie de crever en fait, qu'on retombe là-dessus, donc on va pas s'en sortir. Et globalement, en fait, partant de là, quand il a commencé à parler de son pont, ça a arrêté de m'intéresser et j'ai globalement arrêté de prendre des notes. Est-ce que vous avez plus de choses sur ce chapitre 14, parce que globalement c'est beaucoup de mots pour pas grand chose. C'est juste pour te dire que Opal, elle est super contente parce que selon elle, le pont, ça va être l'emplacement idéal vu que en dessous il y a des millions de moustiques et les moustiques c'est du miam pour les chauves-souris.
Moi j'ai juste noté que Roscoe avait réussi à décrocher un job comme Macron l'imaginait, ça veut dire il a vraiment traversé la rue quoi.
Il s'est pointé au journal et il a juste dit hey, j'intéresse 80, c'est bon, vous êtes embauché.
Donc les chauves-souris trouvent un logement dans ce pont de merde, et l'espace d'un instant je me suis dit que le livre pourrait complètement s'arrêter là-dessus.
Ce serait trop bien.
Et c'est malheureusement pas le cas.
Malheureusement, il reste encore une bonne centaine de pages.
On est sur du classique Klein quand même là, qui en quelques lignes, j'allais dire en quelques paragraphes, c'est faux, c'est vraiment en quelques lignes, il y a deux situations qui sont réglées en un claquement de doigts. Il y a quelqu'un qui trouve un taf. On a le fameux pont donc Bad City. Tout est vraiment réglé d'une manière vraiment magique. Et comme il le faisait dans Ready Player 2 et One quoi. Et toutes les éventuelles problématiques, genre OK, les moustiques c'est chiant. Ah bah non, finalement c'est trop une bonne solution parce que ça y est la bouffe des chauves-souris. Et il fait ça plusieurs fois dans le chapitre en fait, à chaque fois il y a des mini problèmes et à chaque fois c'est expédié mais immédiatement quoi.
C'est
notamment la recherche des chauves-souris, par exemple, puisqu'il faut rechercher les chauves-souris pour leur annoncer la nouvelle.
Oui.
Et là, c'est le moment de panique qui est « Merde, elles sont où ?» Et là, on apprend qu'Opal peut visiblement les géolocaliser mentalement. Donc, expédié en 2 secondes.
Parce qu'Opal devient une chauve-souris, je pense. Opal devient la chauve-souris.
Et ouais, c'est vraiment du gâchis de lignes et d'encre pour nous faire croire que le contact a été perdu et que les chauves-souris sont loin ou autre chose. Non, c'est juste pour dire, ouais, voilà, maintenant je peux... j'ai l'application localisée sur mon téléphone et je peux retrouver les chauves-souris, y a pas de problème. Et les chauves-souris, elles sont ravies, ça y est, elles ont un pont. On a même une petite illustration où on voit 3 chauves-souris qui sont nichées dans un trou du pont.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Les illustrations qui, on le rappelle, sont probablement le seul truc à sauver de ce bouquin. Les illustrations sont plutôt chouettes.
Oui, parce qu'elles prennent de la place.
Et oui, il y a un foreshadowing, Brice.
Il y a un foreshadowing qui dit « Ouais, c'est bon, tout est terminé, tout va bien, les chauves-souris, elles sont trop bien. » Et alors, j'ai oublié la phrase précise, mais ça sous-entend que personne... Enfin, que le lendemain, ça va pas bien se passer parce que les gens, ils vont... ils vont pas aimer ça, quoi.
Bah, les gens, ils vont voir qu'est-ce... les gens vont voir qu'elles sont là, voilà.
Voilà.
C'est les fameux cliffhangers à la Klein qui tiennent sur une ligne sur le dernier chapitre, et enfin, à la fin de chapitre, et qui, globalement, sont... résolu sur les trois premières lignes du chapitre suivant la plupart du temps. Mais là, je pense que ça va être la problématique du reste du bouquin, en fait. Ça va être de faire accepter aux habitants d'Austin le million de chauves-souris que nos deux tocards viennent de ramener dans leur Red Rambler, quoi. J'ai noté que même pour Ernest, il y a une phrase en fin de chapitre où il dit « Uncle Roscoe rambled the Rambler ». Il fait zéro effort, putain. Il utilise le même mot deux fois dans la même phrase. Et celle-là, pour le coup, si tu peux la trouver en VF, Camille, je suis curieux de savoir s'ils ont dit « Oncle Roscoe balada la baladeuse ». Parce que je suis vraiment curieux.
J'ai pas le livre là. Si vous me donnez 2 minutes, je peux aller le chercher si vous voulez que je vérifie.
Ah bah oui, oui, tout à fait.
Vas-y, j'arrive.
C'est page 185 sur le livre anglais.
Voilà, en attendant, il faut se rappeler qu'il y a des chauves-souris qui, je crois, à la suite de leur concert, ont commencé à un peu plus se personnaliser et avoir des accessoires, en fait. Je crois qu'il y a 2 chauves-souris qui se sont fait des barbes.
Oui, oui, pour les hésitants.
Voilà.
Mais oui.
Et je crois que toutes les autres aussi, en fait, ont maintenant des petites caractéristiques à la suite de leur folle soirée, quoi.
Moi, j'imagine que celle qui était à Run DMC, elle porte des casquettes et des tennis maintenant. Enfin, j'espère en tout cas.
Alors, j'ai le bouquin. Tu m'as dit c'était quelle page ?
Alors, dans le bouquin en VO, c'est page 185.
Enfin, moi, elle remonta dans la baladeuse avec son oncle. Roscoe balada la baladeuse.
Parfait.
Voilà, voilà. Eh ben c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais savoir. Merci au traducteur français d'avoir conservé toute la substance kleinesque. Voilà, le génie kleinesque. Ça aurait été dommage de corriger ça avec une meilleure tournure. Moi, j'ai plus grand-chose parce que faut bien l'avouer, il y avait beaucoup de pages pour rien, en fait. Il y avait beaucoup de pages avec 6 fois la même chose. Et au final, je n'ai plus grand-chose parce que ça n'a pas raconté grand-chose, finalement. On s'est tapé 60 pages pour dire « Ils arrivent à Austin, il y a plein de musique, Opal voit un pont. » Voilà.
Moi, je suis un petit peu inquiète parce que je vous avoue que ce chapitre 12-là, je m'y attendais pas. C'était assez novateur dans la détresse dans laquelle ça m'a foutu. J'avais jamais été confrontée à une œuvre qui me prenait comme ça en otage. J'ai trouvé que c'était terrible. Et je me suis posé la question, je me suis dit « C'est le pire chapitre que j'ai lu ». De ma vie, mais je pense toute œuvre confondue, est-ce qu'il va être capable de faire pire dans la suite de ce bouquin ?
Très probablement.
La question est posée, écoute, je pense que même pour du Klein, le chapitre 12, c'était vraiment du très très haut niveau, à tel point que, vous le savez, j'ai une petite chatonne qui habite chez moi depuis maintenant quelques semaines, elle a commencé à attaquer mon livre pendant que j'étais en train de lire ce chapitre 12, elle a commencé à le mordiller, donc maintenant, mon bouquin n'est pas détruit encore, mais elle l'a bien attaqué et bien déchiré. Je pense qu'elle-même comprend qu'Ernest se fout de notre gueule, en fait. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter ? Moi, c'était la fin de mes notes. Au final, sur les derniers chapitres, je pense que le 12 m'a tellement exténué que je suis passé assez vite, en fait.
Pareil. Moi, ça a été, mine de rien, j'en ai pas retiré grand-chose hein, de cet épisode. Enfin, pas de cet épisode. Je n'en ai pas retiré grand-chose de ces chapitres.
J'ai peut-être quelque chose... Alors, j'ai... Très peu, voire pas du tout de notes sur le chapitre 14, mais j'ai un souvenir qui vient de me revenir là, et vous pourrez ou non me le confirmer. Est-ce qu'il est vraiment écrit à un moment qu'Opal n'a jamais été aussi heureuse de se faire piquer par des moustiques ?
Oui, parce qu'elle se fait piquer par les moustiques, elle dit « Ah là, ça fait chier les moustiques !» Et puis en fait, elle se rend compte que mais non, c'est parfait parce que c'est un garde-manger idéal pour les chauves-souris. Et oui, elle le dit... Alors attends, je vais retrouver la page, mais effectivement, c'est dit, Opal n'a jamais été aussi heureuse de se faire piquer par des moustiques. C'est quasiment littéralement ce qui est écrit dedans. Attends, je vais le retrouver. Elle n'a jamais été aussi heureuse d'être recouverte de piqûres de moustiques de toute sa vie. Elle ne pouvait pas imaginer être aussi chanceuse. Non seulement elle venait de trouver un emplacement assez gros pour héberger 1 million de chauves-souris, mais il était aussi situé immédiatement à côté d'une source de nourriture abondante pour les nourrir toutes. Voilà, je l'ai traduit un peu à l'arrache, je ne sais pas à quoi ça ressemble dans la VF de Camille, mais c'est littéralement ce qui est écrit.
Ok. Je n'ai pas rêvé ce passage.
Tu ne l'as pas rêvé, c'est bien écrit. Opal est au septième ciel, parce que voilà, elle vient de se faire déglinguer par des moustiques. La mauvaise nouvelle, c'est que on va être obligé de s'arrêter à un milieu de chapitre pour la prochaine lecture, parce que le chapitre, je crois que c'est le chapitre 18 est interminable.
La merde.
Le chapitre 18 fait, alors attends, je regarde, 237 jusqu'à... Le chapitre 18 fait plus de 35 pages.
Oh,
donc, on va s'arrêter au milieu du chapitre 18. Alors, je ne sais pas à quoi ça va ressembler en VF. Mais donc, on va lire les chapitres 15, 16, 17. Et au chapitre 18, on va s'arrêter à la phrase qui dit « Oh no, a stain !» he cried. « I better wash this necktie in the sink. » Et donc on s'arrête là, on s'arrête avant la phrase qui dit « When the 4th of July rolled around ». Donc dans la VF, il faudra que tu cherches une référence au 4 juillet.
Je l'ai. Oh non, une tâche, s'exclama-t-il. Je ferais mieux d'aller laver cette cravate dans l'évier.
Vous arrêtez là si vous lisez le livre en VF, et ce sera bien assez, en espérant que on n'ait pas à subir un nouveau chapitre 12, parce que putain, je sais pas si ma santé mentale va y survivre. Un épisode assez court, ma foi, mais écoutez, peut-être que c'est pour le mieux. Peut-être qu'il vaut mieux savourer ce genre de bouquin par petite dose, parce que c'est une épreuve.
Ben, tout ce que j'arrive à imaginer maintenant, et j'aurai la réponse probablement dans 2 semaines, parce qu'on est des gros flemmards et on lira tous dimanche, c'est que le pyjama Star Wars est équipé d'une cravate.
Ben écoute, pourquoi pas. Il aurait pu la détacher du pyjama Star Wars.
Non, moi, j'aime à penser qu'elle est intégrée, que c'est un sorte de one block, tu sais.
Ah, un peu comme les t-shirts qui font semblant d'être un costume.
Voilà.
Donc, pyjama Star Wars. Alors, est-ce qu'à votre avis, il n'y a pas Jar Jar sur la cravate parce que c'est trop tard. Il y aurait genre des Ewoks.
Oh, si, justement.
Il pourrait y avoir un Ewok sur la cravate.
Il y a justement Jar Jar sur la cravate.
Ernest n'a pas peur des anachronismes, mais là, ça ferait beaucoup quand même.
Mais et pourquoi pas Dark Maul ? Moi, je propose.
Écoute, tant qu'à faire. Au point où on en est. Bon, eh bien, écoutez, donc, rendez-vous est pris pour dans 15 jours. On va se retaper encore une grosse cinquantaine de pages, si ce n'est plus. Et je pense que là, il nous reste 2 épisodes, globalement. Il nous reste 2 épisodes, hein, on a une centaine de pages avant la fin. Moi, mon pronostic, c'est que vraiment, il ne sera plus jamais question de l'OVNI, il ne sera plus jamais question de McCarno Limestone, je vais y arriver. Ça va être 100 pages pour nous raconter comment les habitants d'Austin se mettent à accepter les chauves-souris. Voilà, c'est mon pronostic.
Grâce à la musique.
Ah oui, parce que quand la musique est bonne, quand la musique donne, quand elle guide tes pas.
Voilà.
Je suis assez d'accord, je pense qu'il ne va strictement rien se passer et que les plus gros moments d'adrénaline, ça sera des moments où les chauves-souris font des petites bêtises de maladresse, d'incompréhension, une belle leçon de tolérance, je pense, ça va être ça.
C'est fort possible.
Ah, et il y a 2 chauves-souris qui vont trouver l'amour aussi.
Ah bah attends, bravo, c'est...
Les 2 chauves-souris qui sont supposées se détester.
Voilà, bravo, c'est la braca, à un moment elles vont faire un petit bébé quoi.
Voilà.
Nous, on va rendre l'antenne, on se retrouve dans 15 jours. Et bah d'ici là, n'oubliez pas à qui était cette chauve-souris déjà.
Salut.
Salut, bonne soirée.
Gros bisous.
C'est la moto de Canada dans Akira. C'est un skin original placé sur une moto de base.
Non, pas la moto, oublie la moto.
En production et à Paris.